en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le lundi 30 mai, à l'Académie des sciences morales et politiques, l'académicienne et sinologue Marianne Bastide-Bruguière a prononcé une communication intitulée « Le débat intellectuel aujourd'hui en Chine ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission intégrale de cette séance.
Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, mes chers confrères, alors que l'expansion économique et la puissance politique de la Chine au plan mondial sont devenus l'objet d'une attention générale constante et à la fois admirative ou inquiète, et souvent les deux à la fois, les idées et la réflexion critique qui en Chine même nourrissent ou accompagnent cette renaissance nationale sont plus rarement examinées dans leur figure d'ensemble ou leurs détails. Pendant les 30 premières années de la République populaire, les commentaires étrangers et chinois expliquaient volontiers les changements économiques et sociaux en Chine par l'application d'une doctrine, d'une pensée, à vrai dire unique, l'idéologie maoïste, sur laquelle la glose était fort abondante. Aujourd'hui, la considération des idées, des croyances, de la pensée en elle-même ou pour elle-même s'est presque évanouie du paysage des discours sur la Chine. Cette indifférence peut se comprendre car l'idéologie politique du régime chinois est à bien des égards moribonde. Pourtant, la vie de l'esprit, le débat d'idées prennent dans la Chine actuelle une ampleur foisonnante à travers tout le pays et je ne pourrais ici ne vous en donner qu'une idée très partielle. J'ai choisi le titre « Le débat intellectuel » simplement pour désigner l'activité du monde des idées, non pas qu'il y ait un seul débat, bien entendu. Il me semble utile de préciser d'abord les conditions dans lesquelles s'exerce le débat intellectuel à l'heure présente et j'examinerai ensuite des thèmes de réflexion sur quelques questions qui animent en permanence la discussion, l'action internationale de la Chine, le rôle des intellectuels, la relecture du passé et l'analyse de la société chinoise actuelle. Les conditions humaines et intellectuelles du débat ont changé dans les dernières années. Les acteurs du débat sont beaucoup plus nombreux. Qui sont-ils ? D'abord les intellectuels. Pour les Chinois, la catégorie sociale d'intellectuels depuis 60 ans est constituée par toutes les personnes qui sont diplômées des études supérieures. Cela représente 120 millions d'individus au lieu de 45 millions en 2000. On peut y ajouter aussi les simples bacheliers. Ce nombre atteint 188 millions au lieu de 141 millions en 2000. À titre indicatif, on trouve encore 520 millions d'individus au niveau BEPC. Il faut mettre cet effectif de 308 millions ayant niveau bac ou au-dessus en comparaison avec les 500 millions d'internautes actifs en Chine actuellement. Mais même en se limitant à ceux qui ont un diplôme, on voit qu'au moins le quart de la population, et presque la moitié si l'on ne prend en compte que les citoyens de plus de 15 ans, est susceptible de participer au débat intellectuel. Il y a un siècle, la proportion était de 1%, elle ne dépassait guère 6% en 1979. En dépit de la nouveauté technique qu'a représenté l'Internet à partir de 2000 surtout, le débat intellectuel chinois fonctionne selon des modes particuliers dont certains gardent l'empreinte d'habitudes assez anciennes. Son fonctionnement est non pas centralisé mais pyramidal et hiérarchisé selon la géographie administrative avec une forte autonomie de chaque cellule des étages inférieurs. Et ceci est un héritage des concours parce que selon les degrés de l'examen, on se rendait à tel niveau à la sous-préfecture, préfecture ou capitale provinciale. Pour les bacheliers qui formaient sous l'Empire les 9 dixièmes du corps des lettrés, l'horizon intellectuel le plus lointain se limitait à la capitale de la province Et il y avait en réalité deux sphères intellectuelles très différentes. D'une part, une très vaste sphère locale structurée en de multiples cellules autonomes, articulées entre elles de façon très lâche dans le cadre de la province, et chacune des 18 provinces ayant un particularisme et une physionomie fortement marquées. Et d'autre part, une sphère nationale très ténue, à laquelle participait seulement la haute élite provinciale des licenciés et des docteurs, et dont les foyers actifs se limitaient à Pékin et à une dizaine de capitales provinciales, sans que Pékin exerce une influence unique ou dominante. Le système scolaire moderne et les diverses sociétés savantes établies à partir de 1902 se sont coulées dans cette architecture. Outre les concours, une autre pratique ancienne a favorisé l'atomisation de la vie intellectuelle. Il s'agit du secrétariat particulier des fonctionnaires. Sous la dernière dynastie, faute d'employés d'État en nombre suffisant, les fonctionnaires recrutaient à leur propre charge des équipes de lettrés pour les aider dans leurs tâches administratives. Ces équipes fonctionnaient comme des think tanks, avec des experts industriels, financiers, commerciaux, militaires, des spécialistes de tous les pays d'Europe. Et ce système a continué sous la République et sous le gouvernement communiste en payant simplement les experts sur des fonds spéciaux. On a recensé 10 000 think tanks majeurs en Chine, alors que les États-Unis en possèdent 2500 et l'Europe 600. Ce milieu est constitué d'intellectuels et d'universitaires experts, auxquels d'ailleurs ces universitaires participent très volontiers, et c'est un lieu important de débat et d'élaboration d'idées. Ces groupes travaillent souvent de manière cloisonnée et avec relativement peu d'interactions, mais les questions qu'ils évoquent, les arguments qu'ils échangent, les jugements qu'ils formulent, aussi bien que leurs conclusions, sont en fait assez largement diffusés et alimentent le débat général. Il est très fréquent, en effet, qu'en dehors des rapports de leur groupe de réflexion, les experts écrivent à titre personnel et éventuellement sous le couvert de l'anonymat ou d'un pseudonyme. Aujourd'hui, les moyens classiques de diffusion restent les revues et les suppléments hebdomadaires spécialisés des grands journaux. On compte 20 000 revues et lancer et diriger une nouvelle revue ou noyauter le comité de rédaction d'une revue existante a été la démarche de nombreux intellectuels dans les années 80 et 90 pour diffuser des idées nouvelles et engager des débats sur le modèle de ce qu'avaient fait les intellectuels libéraux du début du XXe siècle. Ces revues sont financées sur des fonds plus ou moins privés et leur existence dépend surtout d'un protecteur politique haut placé, susceptible de leur éviter les foudres de la censure. Et diverses personnalités à la tête du parti et des provinces jouent ce rôle qui peut servir leur influence et leur visée politique, bien entendu. Cependant, le fonctionnement hiérarchisé et assez cloisonné du débat intellectuel a été profondément modifié depuis 2000 par l'intervention de l'Internet et surtout depuis 2002 par l'usage généralisé du blog et des logiciels relationnels. En effet, le nouvel outil établit une communication transversale, instantanée et réactive. Et le monopole des intellectuels statutaires et des détenteurs du pouvoir, devant un public de masse ignorante, est désormais fortement entamé. Le public lui-même fit irruption sur la scène. L'Internet chinois a été dès le début le lieu d'une création littéraire et artistique d'avant-garde, ce qui ne s'est pas passé chez nous, et cette création tournait en dérision la culture ambiante. Le public des internautes ne se borne pas à suivre l'événement, très fréquemment, il le crée. Certes, comme ailleurs, dans le monde des préoccupations qui les intéressent, la vie sentimentale, les loisirs, les problèmes de la vie pratique priment. Mais bien souvent, les réactions en chaîne que provoquent des récits ou des images mis en ligne deviennent des problèmes d'intérêt général, au point que beaucoup d'intellectuels en vue ou ceux qui souhaitent l'être ont un blog, bien à l'évidence sur les sites et avec un décompte précis des visiteurs. La censure, bien entendu, pèse sur toutes les formes d'expression de la pensée. Elle relève toujours du département de la propagande du parti. Elle s'exerce par un système fort compliqué. Le contrôle est préalable sur les organes d'émission. Il comprend des autorisations administratives, enregistrement pour ouvrir des maisons d'édition, des maisons de production de films, et aussi l'attribution de numéros d'ISBN pour les publications, ce qui donne lieu à de nombreux commerces. Sur les productions elles-mêmes, la censure officielle est a posteriori et elle frappe au premier chef non pas les auteurs individuels des productions, mais les responsables de leur diffusion. Cette censure s'est notoirement assouplie depuis 20 ans. Elle reste gardienne des bonnes mœurs, mais avec un regard assez peu rigoureux sur la pornographie et l'homosexualité. Elle ne traque plus l'erreur idéologique et la critique politique pour elle-même. Elle pourchasse les atteintes à l'ordre public, ce qui interdit évidemment la remise en cause du droit du Parti communiste à exercer le pouvoir et la remise en cause de la légitimité des dirigeants à l'échelon central. Mais sous le chef du maintien de l'ordre public, la censure vise aussi des discours qui sont susceptibles d'entraîner l'organisation d'une action collective anti-gouvernementale. Et dans ce domaine, les règles sont beaucoup moins claires. Les critères d'appréciation des différents échelons apparaissent bien plus aléatoires selon le temps et selon les lieux. Dans la vague de répression qui, depuis mars 2008, depuis les troubles du Tibet, sévit, les victimes des peines les plus sévères d'emprisonnement ou de détention sans jugement avec usage fréquent de la torture ont été des avocats et des journalistes dont les accusations et enquêtes relayaient directement des mouvements locaux de protestation populaire. Et c'est le cas aussi de Ai Weiwei, le peintre qui est actuellement détenu. Les anciens militants étudiants du mouvement de 1989 ont été aussi les cibles de persécution parce qu'on redoute leur capacité d'organisation et de mobilisation pour une action collective. Et Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, en est un exemple majeur. La même logique explique les coups de main contre certaines communautés religieuses et, par exemple, les protestants évangélistes et aussi certains catholiques souterrains. Cependant, un auteur comme Yudier, qui a écrit un livre incendiaire contre le Premier ministre, n'est pas derrière les barreaux. Les pratiques erratiques et sélectives de la censure officielle donnent à beaucoup d'auteurs le sentiment de jouir de la liberté de penser, le sentiment d'une liberté individuelle d'expression, parce que la parole d'opinion n'est plus épiée et sanctionnée. Et on voit d'ailleurs des avocats célèbres pour leur défense impénitente des droits de l'homme faire des conférences dans les pépinières de la nation que sont l'Université de Pékin et l'Université Tsinghua, et ces conférences sont publiées sur l'Internet. L'abondante législation et la muraille de feu technique qui, depuis 1996, encadre l'Internet permettent de bloquer instantanément les blogs, mais c'est un jeu d'enfant de recréer aussitôt un blog ailleurs. L'existence de la censure officielle continue d'engendrer une autocensure de la part des auteurs et des éditeurs ou producteurs de cinéma. Mais l'autocensure des auteurs se réduit à adoucir les formes, elle n'engage plus le contenu. Les éditeurs de revues coupent, réécrivent, sous l'égide de leurs protecteurs politiques, ils négocient aussi de pied ferme avec les censeurs pour faire passer des critiques et des nouveautés. Depuis 60 ans, à propos de leur espace intellectuel, les Chinois ont coutume d'évoquer l'existence d'une ligne rouge qu'il convient de ne pas franchir. Dans les 10 dernières années, cette ligne rouge a beaucoup reculé. Ce déplacement rapide n'est pas le résultat de la prospérité et de la libéralisation économique, mais celui de la pression exercée par la masse de la population instruite et celui des facilités procurées à la diffusion du savoir par les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Le mouvement de pression s'exerce par la force des choses et du renouvellement des générations, à la fois en dehors du Parti communiste et en son sein, à la base et dans les rangs de l'élite dirigeante. De cette situation résulte que le débat intellectuel en Chine n'a pas réellement de frontières sociales ou politiques. Il n'y a pas lieu de le considérer comme un affrontement entre une fragile dissidence et une forteresse réactionnaire énorme et aveugle. Le paysage évoque plutôt celui de la France des années 1780, où des hommes de pouvoir et d'influence partageaient l'esprit critique et les goûts de la République des Lettres, tout comme un assez vaste public sous l'œil de la censure. Voyons maintenant le contenu du débat. J'ai retenu comme premier thème l'action internationale de la Chine. Des discussions très denses portent sur les affaires internationales, la position de la Chine dans le monde et sa politique extérieure. Elles concernent un grand nombre d'universitaires et d'experts, mais aussi un assez large public. Elles portent beaucoup sur l'analyse de ce que les Chinois appellent le Shen, c'est-à-dire la configuration des forces dans le monde, la dynamique du système international et la conjoncture du moment. On se demande si le jeu mondial est unipolaire, dominé par les États-Unis, multipolaire ou vraiment bipolaire, partagé entre l'Amérique et la Chine, ou encore variable selon les théâtres et les moments. Le débat concerne aussi la définition de la puissance chinoise. La Chine est-elle et veut-elle s'affirmer comme une puissance régionale, comme une puissance émergente de type nouveau, ou comme une grande puissance mondiale, classique, ou encore comme une superpuissance? Et quelle responsabilité est-il légitime que la Chine assume dans ces différentes situations? Les controverses les plus vives touchent à la stratégie diplomatique que la Chine doit adopter, à la définition des objectifs de cette stratégie, de ses priorités et de ses principes, et particulièrement tout ce qui touche aux principes relatifs à l'exercice et au respect de la souveraineté. Le principe de non-intervention est vivement contesté. Et on s'affronte aussi sur le choix entre accroissement de la puissance militaire et technologique pour mieux protéger l'intérêt national et l'amélioration du niveau de vie de la population. Beaucoup pensent qu'il faut abandonner le profil bas préconisé par Deng Xiaoping en matière de politique extérieure. Le tableau d'ensemble qui ressort est celui d'une absence de consensus dominant. Bien que le discours officiel sur la politique étrangère soit relativement cohérent et reste dans le registre de l'ascension pacifique, du refus de l'hégémonie et de la préférence pour la multipolarité, l'opinion informée, qui comprend nombre d'acteurs ou collaborateurs de la diplomatie et des relations internationales chinoises, est très divisée. Selon le recensement d'un universitaire chinois en 2007, un peu plus d'un tiers des articles publiés dans les revues spécialisées reflétaient un courant libéral favorable aux institutions internationales qui défend l'idée que le mouvement du monde va vers la paix et le développement. Les réalistes nationalistes constituent un autre tiers de cette opinion informée. Ils pensent que le monde va vers l'affrontement et la guerre et ils seraient prêts à sacrifier la prospérité à la puissance afin que la Chine gouverne effectivement le monde pour le vrai bonheur des nations. Tous, libéraux et nationalistes, estiment que le monde a, selon la formule chinoise, un empereur et de multiples centres de pouvoir, qu'il est à la fois unipolaire et multipolaire, que cette situation est transitoire. Il est généralement admis que les États-Unis sont l'empereur actuel. Sur les effets de cette hégémonie et les avantages de l'hégémonie en général, sur l'identification des centres de puissance et l'avenir de la configuration, les divergences sont incessantes. On voit s'affirmer un troisième courant qui estime qu'on s'achemine vers un ordre multilatéral qui, à la différence de la multipolarité, ne sera plus fondé sur le traditionnel jeu de force entre les États, et cette position représente moins d'un tiers des auteurs, mais elle gagne du terrain. Ses partisans se définissent volontiers comme des constructivistes, c'est-à-dire soucieux de construire des institutions, des pratiques et des normes qui répondent à l'évolution en cours de la société mondiale et non pas à une vision passéiste et figée de l'intérêt national. L'opinion beaucoup plus large qui s'exprime sur l'Internet se partage aussi entre ces trois tendances, mais avec une présence plus forte du réalisme nationaliste et aussi du constructivisme. Le débat sur le rôle des intellectuels, que j'évoquerai maintenant, met en perspective la place du discours venu de la blogosphère. Autour de 2002, l'élite universitaire chinoise a abondamment discuté la notion d'intellectuel public sous l'influence de la diffusion d'ouvrages américains tels que « The Last Intellectuals » de Russell Jacoby et « Public Intellectuals – A Study of Decline » de Richard Posner. Jouèrent aussi des sollicitations des milieux intellectuels et politiques américains, mais surtout la réalité quotidienne en Chine de l'autonomie croissante d'une société de consommation qui, sous l'œil tolérant, voire complice de l'État, envahissait la scène par une culture grand public, porteuse de ses valeurs propres, valeurs jugées mercantiles, voyeuristes, égoïstes, bref, dégradantes par beaucoup d'esprits distingués. Les intellectuels chinois avaient-ils failli à leur mission? La culture, la moralité, la rationalité, la liberté, l'avenir démocratique, l'identité chinoise elle-même étaient-ils en danger? Philosophes, sociologues, anthropologues, historiens, écrivains se sont interrogés sur la validité de la notion occidentale d'intellectuel public dans le contexte chinois. Certains ont avancé que les lettrés chinois, associés par statut à l'État, avec charge de le légitimer et de contrôler ses déviances, étaient tous par nature des intellectuels publics bien avant l'invention de la notion en Occident. Les intellectuels chinois modernes l'étaient aussi par héritage et, bien que dépouillés du monopole des charges publiques, à la différence des anciens lettrés, ils étaient restés, comme les anciens lettrés, les porteurs et les interprètes privilégiés de la valeur très ancienne de Gong, qui signifie l'idée de bien public, de bien commun et d'équité, par opposition aux ceux qui représentent l'intérêt particulier, individuel, privé et partial. D'autres ont souligné qu'en Chine, c'est le point de vue sur la culture et non l'engagement politique qui fait l'intellectuel public. Ils ont rappelé qu'en Chine, le libéralisme avait pris racine depuis 1900 et s'était défini comme un mouvement culturel d'opposition à la culture traditionnelle et à ses interprètes. Pour certains, le lettré devenu mandarin change en fait de statut et l'exercice du pouvoir politique, la pratique politique, quelle qu'elle soit, limite toujours la constitution du savoir. Parmi les appellations variées qui désignent en chinois les personnes instruites, le débat épingle volontiers les gens de lettres, qui s'adressent au grand public par la littérature, les éditoriaux, les œuvres provocantes, en courtisant les médias, souvent pour leur gloriole personnelle. Ces gens perdent tout esprit critique, sont donc disqualifiés comme intellectuels publics, voire comme intellectuels tout court, et seuls les savants, les suédois, peuvent jouer le rôle d'intellectuel public. Les auteurs sont intarissables sur les qualités nécessaires à l'intellectuel chinois. Au premier chef vient l'autonomie, être son propre maître, son propre souverain. Ensuite, selon un ordre de priorité variable, avoir le sens de l'universel, du général, du dépassement par rapport à des conditions particulières, ce qui exclut l'esprit partisan, évidemment. Aussi, être une conscience morale et surtout être un homme de raison, appliquant sans relâche des facultés rationnelles à la connaissance et à l'action. La majorité des auteurs préconise d'être des intellectuels spécialisés, de penser et d'agir à partir d'un savoir précis, situé. Et c'est la position notamment d'un historien comme Qin Hui, qui est très connu par ses positions dans la grande presse sur les sujets politiques brûlants. Qin Hui dit que c'est l'approfondissement et le renouvellement des connaissances dans chaque domaine le plus spécifique qui sont les tâches prioritaires. Après la sortie par un hebdomadaire très répandu d'un palmarès de 50 intellectuels publics chinois les plus en vue, qui comprenait d'ailleurs plusieurs Chinois de l'étranger, en novembre 2004, le département de la propagande a enjoint de cesser les publications sur les intellectuels publics. Et il a fait démontrer par quelques élateurs que ce terme n'avait rien à voir en Chine, où le parti honorait le savoir et les intellectuels étaient tous reconnus comme la partie la plus instruite de la classe ouvrière. Les intellectuels n'avaient pas, au nom d'une prétendue indépendance, à usurper le droit au discours du parti et de l'État. L'interdiction est restée sans effet. L'hebdomadaire en question a continué à sortir chaque année des listes d'intellectuels publics et le débat ne cesse pas. Mais en s'exprimant sur des sujets qui sortent de leur spécialité étroite, les intellectuels déclarent volontiers maintenant qu'ils agissent en citoyens. Or, ce terme de citoyen est celui par lequel se désignent depuis longtemps déjà les pétitionnaires, les plaignants issus du peuple en ville et dans les campagnes, ainsi que les internautes qui commentent l'actualité politique et sociale. On observe donc chez l'intelligentsia une sorte de renoncement au rôle de leader d'opinion en faveur d'une association sur pied d'égalité avec le reste de la population. La confluence et le mélange entre la réflexion des élites intellectuelles et celle du grand public sont particulièrement manifestes dans la relecture du passé chinois qui tient une place importante sur la scène culturelle actuelle. Le mélange n'engendre pas l'unanimité des points de vue, il multiplie au contraire leur pluralité. Dans la mesure où ce retour sur la mémoire est une quête d'identité, il fortifie les identités individuelles. Mais ce mouvement général construit aussi une nouvelle communauté de citoyens avertis de leurs libertés respectives et conscients de leurs droits. Je ne peux pas m'étendre beaucoup sur la réécriture du passé chinois qui est énorme. Je me bornerai à souligner quelques traits souvent négligés par les commentateurs étrangers. Tout d'abord, l'œuvre et la réflexion de certains grands intellectuels taïwanais exercent une influence capitale, beaucoup plus profonde que celle de célèbres chinois américains, comme par exemple Du Weiming, professeur à Harvard, qui a reformulé un confucianisme adapté à la démocratie moderne en puisant dans la philosophie allemande. La vraie référence, à la fois intellectuelle et morale, de nombreux penseurs du continent est Yu Yingzhi, un historien taïwanais, critique érudit et pénétrant de toute la tradition intellectuelle chinoise jusqu'à ses affrontements contemporains avec la dictature puis la transition démocratique à Taïwan. Les livres de Yu Yingzhi interprètent l'évolution de la culture chinoise selon les critères de cette culture. Mais dans une comparaison constante avec l'Inde et l'Occident, sans essentialiser la culture chinoise, ni non plus l'isoler. Il montre la compatibilité et la convergence entre les valeurs fondamentales qui irriguent le cours de la culture chinoise, c'est-à-dire ce dont est fait le Dao, la voie que l'homme doit suivre à travers les âges, et la culture, les valeurs fondamentales qui irriguent l'Occident. Il montre aussi l'inanité de la problématique qui veut opposer les deux. Pour lui, le confucianisme proprement dit n'est plus qu'une âme errante qui aura de la peine à se réincarner car la pratique qui lui était essentielle a disparu à jamais. En revanche, la culture chinoise peut et doit retrouver le grand courant du Dao qui est la recherche de valeurs et d'une conduite humaine orientée par un sens d'une transcendance inhérente à la vie et à la nature. C'est sous cet angle qu'il faut comprendre le foisonnant discours sur le confucianisme qui se répand partout en Chine. Contrairement à ce que prétend la presse étrangère, il n'est pas orchestré par le parti et le gouvernement qui ne lui accorde qu'un soutien très limité et sporadique. Ce discours émane de toutes les catégories sociales sous des formes très diverses. On recherche une identité nationale, sans doute, mais aussi une identité morale. Et le phénomène est analogue dans la résurrection très déconcertante pour les étrangers d'un fétichisme pour les symboles, objets ou chants de la période maoïste. Cette résurrection du fétichisme maoïste relève le plus souvent d'un détournement, d'une dérision. Il tient lieu d'exorcisme contre une période noire qu'on n'a pas connue ou qu'on ne veut plus connaître. Et tout autant, il tient lieu d'une protestation contre le présent. La réappropriation populaire du passé, qui brise souvent les tabou imposé par le pouvoir sur certains épisodes de l'histoire révolutionnaire, défie aussi le monopole des intellectuels professionnels sur l'interprétation de l'histoire. Mais cette réappropriation est perçue de plus en plus par les universitaires et les écrivains comme une source d'inspiration, comme l'expression d'une invention culturelle tout aussi respectable et créative que d'autres. L'irruption multiforme du passé dans la vie présente des Chinois depuis 20 ans, cette fièvre ou fureur du passé, comme ils disent, fait partie d'une quête générale d'identité qui débouche sur l'appréhension croissante d'une identité plurielle, ouverte et tolérante, une identité mouvante et non plus figée dans le contour unique de la révolution. Ce même sentiment d'un mouvement pluriel, souvent perçu comme un risque d'éclatement, traverse le débat sur les problèmes de la société actuelle. Comment penser la société chinoise d'aujourd'hui est le grand sujet qui hante les esprits et qui inspire le plus la réflexion, soit qu'elle s'attache à des faits particuliers, soit qu'elle se lance dans des spéculations générales. Je me limiterai à un aperçu des discussions sur la structure de la société actuelle, sur les maux qui l'affligent et sur les remèdes possibles. Beaucoup d'enquêtes et d'analyses scrutent le changement des structures sociales qui accompagnent la réforme économique. Comme l'abandon de politique de la lutte des classes a rendu obsolète la notion de classe sociale, des chercheurs de l'Académie des sciences sociales ont mis en évidence depuis 1997 une stratification en 10 couches sociales, définies par des critères surtout socio-professionnels assez proches des catégories de notre INSEE, avec tendance à la mobilité vers le haut, illustrée par la croissance continue d'une classe moyenne qui représente maintenant 23% de la population, 40% à Pékin et Shanghai. En 1998, le sociologue Sun Liping, professeur à l'université de Tsinghua, a avancé au contraire le concept de cassure sociale ou rupture. Selon lui, l'évolution sociale reconstitue des classes ou des catégories qui entrent en conflit entre elles en raison du déséquilibre de leur pouvoir, parce que des clics d'intérêt détournent, distordent les réformes. Le changement social, dit-il, fonctionne selon une logique de cassure. En s'appuyant sur les chiffres du recensement, d'autres soutiennent que la structure est celle d'un T à l'envers, avec tendance à l'émiettement de la base en multiples sous-groupes. S'il y a accord général sur la prédominance numérique des catégories inférieures et moyennes, les avis divergent sur les clivages ou antagonismes les plus aigus. Dans un colloque du mois de janvier, l'éminent économiste Huang Gang, qui est aussi l'avocat d'une ascension verte respectueuse de l'environnement, Hu a lancé l'idée d'une structure quadripartite de la société actuelle, qui conditionne aussi bien la vie sociale des individus que la vie politique et l'économie. Il subsiste, dit-il, une division entre société rurale et société urbaine. Mais au sein de la société rurale s'opposent une société agricole et une société non agricole, qui est majoritaire, qui vit des ressources d'une économie informelle d'entreprises qui échappent plus ou moins aux règlements et à l'impôt. Au sein de la société urbaine, s'affrontent une société de travailleurs réguliers, employés dans des entreprises soumises aux règlements, aux contrôles, à la fiscalité de l'État, et une société de travailleurs irréguliers, qui sont les migrants ruraux. Ils représentent plus de 60% de la main-d'œuvre urbaine et travaillent dans des entreprises dont beaucoup échappent aux règles publiques avec un statut qui leur interdit l'accès aux services sociaux dont jouissent les résidents urbains, éducation, santé, indemnité chômage, pension, etc. Dans toutes les tribunes, de la place du village au bureau politique, le catalogue des vices dont souffre la société chinoise est long. Ses principaux chapitres sont le creusement des inégalités, l'arbitraire d'un pouvoir devenu incontrôlable, même de l'intérieur, la justice, la corruption, la tromperie généralisée, la disparition du lien social et du sens moral, la destruction de l'environnement. Les avis divergent sur les remèdes et leurs priorités respectives. Personne ne songe vraiment à arrêter la croissance économique. On veut le progrès matériel. On croit à l'avenir, même quand on dénonce, comme Sun Liping, le pourrissement social, la nécrose, le déclin politique qui s'empare du pays. Mais le sentiment majoritaire est que, par elles-mêmes, les mesures économiques sont impuissantes à enrayer le mal. Certains veulent mettre fin à l'alliance entre le pouvoir et l'argent, qui est pour eux la source du pourrissement social, car tout le système ne fonctionne que pour conserver des intérêts acquis. Le vrai remède pour ceci, c'est une réforme politique qui mette le pouvoir sous un contrôle démocratique et affirme les valeurs d'une nouvelle civilisation. D'autres, dont les économistes les plus en vue, réclament d'urgence des réformes sociales. À leurs yeux, les structures sociales ont 15 ans de retard sur les structures économiques. Pour eux, les inégalités criantes existent au sein de chacun des groupes sociaux, aussi bien qu'entre eux. La plus irrationnelle et la plus dangereuse de ces inégalités n'est pas celle entre ville et campagne, mais celle à l'intérieur de la société urbaine, entre migrants ruraux et citadins. On demande donc la suppression de l'enregistrement de leur résidence au lieu d'origine de la famille, qui répondait aux besoins d'une économie planifiée et qui empêche les travailleurs migrants d'accéder aux services sociaux en ville. On veut aussi soumettre à la législation ordinaire les entreprises qui les emploient. Mais le programme, disent ces économistes, doit s'accompagner d'un renforcement de la protection sociale pour les citadins et les ruraux les plus pauvres. Une partie de ces idées sur le développement social a été inscrite dans le 12e plan quinquennal 2011-2015 qui a été adopté en mars dernier. Mais l'opinion continue de faire pression pour une application réelle et très étendue en faisant valoir qu'il ne s'agit pas seulement pour le pouvoir d'améliorer sa gestion de la société, d'administrer, en chinois ça se dit guanli, mais de parler raison, et c'est un jeu de mots parce qu'en chinois ça se dit jiangli, c'est-à-dire d'adopter une conduite rationnelle envers les citoyens, de rendre justice, sinon à la violence de l'État ne répondra que la violence. La politique de stabilité sociale préconisée par le gouvernement est sans cesse dénoncée comme un immobilisme qui est non seulement indûment répressif, mais nocif à la croissance économique. Au-delà des droits sociaux, le débat d'idées accorde une place croissante aux questions d'éthique. La société actuelle est sauvage, barbare, se plaint-on, partout. Car elle est dominée par la quête du profit individuel et par la violence. En antidote, des universitaires proposent comme idéal l'expression anglaise « civil society ». Et bien que très avertis des différentes théories politiques qui s'attachent à ce terme, ils expliquent que le sens profond de cette notion est celui d'une société civilisée. En conséquence, ils abandonnent les traductions chinoises antérieures du terme anglais, qui se traduisait comme « société de citadins » ou « société de citoyens », qui était obscure ou déconcertante pour le grand public, et ils ne parlent que de « société civilisée » de Wenming Shehui, c'est-à-dire une société ayant une civilisation, valeur très familière depuis des siècles à l'ensemble de la population et partagée par tous. Cette ligne de pensée trouve un écho spontané et intarissable auprès d'un vaste public qui puise ses arguments avec acribie dans l'ensemble de la culture et de l'histoire nationale et étrangère. On dispute donc à l'envi dans les revues sur le net depuis 6 ans des valeurs qui définissent une société civilisée et de leur sens concret dans la Chine et le monde du XXIe siècle. Justice, équité, droiture et sincérité, liberté et respect de la personne sont des thèmes de prédilection. L'examen dépouille ces valeurs de toute couleur culturelle spécifique pour y reconnaître un bien commun de l'humanité. Ce bien universel et supérieur à toutes les distinctions sociales ou autres, est issu de la coalescence des expériences particulières des diverses cultures sous l'effet d'une mondialisation irréversible. C'est un point de vue qui s'exprime de plus en plus. La volonté plus ou moins consciente de rejoindre une convergence universelle et raisonnée de valeurs morales est particulièrement frappante dans la réflexion qui touche au lien social. L'effritement rapide des solidarités familiales, locales et communautaires au sein d'une trop grande société, dont les repères sont bouleversés par le progrès économique et technique, est un leitmotiv chez tous les publics. En réponse à cette angoisse, se dessine un courant de pensée qui voit dans la notion chrétienne de l'amour inconditionnel, fait d'abnégation et de service à autrui, quel qu'il soit, la valeur transformatrice nécessaire pour restreindre les excès de l'économie de marché. Ce courant est alimenté par les exégèses des philosophes sur les carences de la culture chinoise ancienne, par des anthropologues, des sociologues, des historiens qui présentent le christianisme comme une religion rationnelle qui appartient à la culture chinoise. C'est aussi alimenté par la théologie élaborée par des évêques catholiques, théologie qui a pour base Dieu est amour et non foi. C'est alimenté par des propos officiels et semi-officiels sur le contenu positif, entre guillemets, des doctrines religieuses et sur le rôle essentiel de l'amour, et aussi c'est alimenté par la chanson pop. En conclusion, le débat des idées a pris en Chine une ampleur qu'il n'avait jamais connue dans le passé, grâce au nombre de citoyens qui désormais y participent. Par la force de ce nombre, ce débat est devenu très divers, pluraliste. La censure le bride encore, mais cette force du nombre a su faire reculer sensiblement la ligne rouge. Une des grandes nouveautés de ce débat, c'est que la circulation des idées ne s'établit plus seulement verticalement entre ceux qui savent et les puissants, ou entre l'élite éclairée et la masse ignorante qu'elle doit guider. Cette circulation s'établit aussi par un dialogue transversal, horizontal, multidimensionnel, qui mélange l'élite intellectuelle au grand public et qui estompe les cloisonnements mentaux du passé. Il en résulte, me semble-t-il, une grande richesse d'invention, une large ouverture qui accueille, qui assimile, qui remet en forme nouvelle, les pensées venues d'autres horizons. La défense de la culture nationale, la crainte de perdre son essence culturelle, cède peu à peu le pas à un élan pour créer, pour pousser plus loin la pensée et pour une libération que je trouve tout à fait intéressante et remarquable. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication de l'académicienne et sinologue Marianne Bastide-Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, une communication prononcée le 30 mai 2011 devant ses confrères. Son titre, Le débat intellectuel, aujourd'hui en Chine.